matin, qui se trouve dans Michée, d'accord ? Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Et on va partir de cette parole, hein, pour une petite méditation qui, j'en suis sûr, va nous encourager. C'est ça le but, d'être encouragé. Michée 6, on t'a fait connaître, on t'a fait connaître, ô homme, je vais rajouter aux femmes, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, je répète, Michée 6, verset 8, hein, d'accord ? Michée 6, verset 8. Je veux donner cette méditation en trois parties, mais je divise cette parole en deux parties. D'abord, le fait de marcher humblement. Et je vais vous raconter mon week-end que j'ai eu dans le Jura, parce que c'était vraiment dans cette direction. Tout ce que j'ai reçu était vraiment axé sur cette invitation à marcher dans l'humilité. J'étais vraiment stupéfait. Alors c'est pour ça que je suis encouragé à vous partager là-dessus. Et puis en deuxième partie, je partagerai plutôt le début, c'est-à-dire, bon, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, quoique j'irai assez rapidement là parce que j'ai déjà beaucoup dit à ce sujet, mais ça nous rattache à Ésaïe 58, ce chapitre merveilleux dans la Bible, qui est un joyau. Et j'avais médité dessus il y a un an ou deux, dans une semaine et demie de prière, j'avais partagé des choses, mais on était très 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 peu de l'Église, et donc je pense que je peux retirer des choses là ce matin. C'est là-dessus que j'ai médité aussi le week-end dernier dans le Jura. Et on va terminer par se rappeler un certain nombre de promesses magnifiques, j'en ai compté au moins 15, qui se trouvent dans ce chapitre. Et le Seigneur me les rappelle et me le dit, rappelle-les à l'Église. Je crois que le Seigneur veut qu'on rentre dans une vision glorieuse de ce qu'il veut faire. Et on va le faire d'une manière très particulière, comme on l'avait dans cette semaine-nuit de prière. On va tous participer, ça va changer un peu l'habitude. Vous verrez. Alors, marche humblement avec ton Dieu. Je suis arrivé dans le Jura vendredi dernier, vendredi soir, oui, il y a eu un premier temps de prière là avec quelques-uns. Hein, le samedi, j'ai participé toute la journée à un conseil avec d'autres membres d'autres églises. Et ensuite, ouf, heureusement quand même, parce que c'était chargé jusqu'au dimanche début d'après-midi, donc j'avais un trou de 2-3 heures entre la fin du conseil, c'est-à-dire entre 16h30, 17h et 19h, avant une célébration de louanges. Et je me suis promené dans ce village magnifique où j'étais, Lovday, tu le connais, Montigny-les-Arsures, près d'Arbois. Oh là là, il y avait un soleil magnifique, les arbres étaient magnifiques, les couleurs, les pierres. Et le Seigneur m'a conduit à monter sur une petite hauteur, là. Puis il y avait le soleil qui se couchait sur cette plaine. J'ai pu bénir la région. Enfin, vraiment, c'était un temps superbe. Et je me préparais pour la soirée de célébration. On m'avait dit, si tu peux, Jean-Luc, donner un court témoignage. J'avais déjà une idée dans la tête. Et dans ce petit temps de balade, le Seigneur avait confirmé ce que je devais partager le soir dans cette soirée de louange, qui était une célébration de louange interconfessionnelle. Et le Seigneur m'avait dit de rappeler une circonstance qui m'était arrivée, et que je vous rappelle très rapidement, il y a quelques années, où j'étais invité dans un rassemblement du renouveau catholique dans la région lilloise pour parler du cheminement de l'unité ici à Wavrin, avec des catholiques de Wavrin. Et donc j'avais été invité il y a quelques années auparavant pour parler du cheminement le dimanche matin. Mais je suis allé dès le samedi soir en tant que spectateur, là, hein. Il y avait Freddy de Coster qui donnait un message. Et donc, vous connaissez cette circonstance plusieurs, je l'ai déjà raconté, hein, mais dans cette soirée, je suis tombé, je me suis assis sur une chaise, il y avait 150 chaises, une seule chaise était plus basse que les autres, je suis tombé dessus, je me suis assis dessus, et j'avais vraiment l'air drôle, bête un peu, vous savez, quand on est assis sur une chaise plus petite, vraiment. Et donc, voilà, c'était cette circonstance, bon, je dis c'est tout, à un moment on était même en cercle, ça faisait drôle quand on est dans un cercle et qu'on se trouve... Et le lendemain matin, où je suis revenu pour être invité pour partager mon cheminement d'unité, donc j'avais tout fait pour éviter cette chaise, elle était vraiment en avant, je l'avais repérée, je me suis mis trois rangées derrière, et voilà que quelques temps plus tard, quelqu'un me voit et me dit « Jean-Luc, viens ici devant là, viens devant à côté d'un tel », et j'ai retrouvé ma chaise basse. Mais je vous assure que cet événement reste gravé dans ma mémoire comme quelque chose, une circonstance voulue du Seigneur qui, pour accompagner et appuyer le témoignage que j'allais dire, que j'allais transmettre, qui était ce témoignage où quelques années auparavant, ça va, vous suivez parce que je change de... où quelques années auparavant, j'avais été convaincu par le Saint-Esprit d'un orgueil spirituel que j'avais vis-à-vis des catholiques, où je me disais, mon Église a toute la vérité, alors que notre Église n'a jamais toute la vérité. Jésus a toute la vérité. Et donc, le Saint-Esprit m'avait repris, m'avait conduit à aller confesser à un homme qui s'appelle Carlos, de demander pardon pour mon orgueil spirituel. Et cette démarche, des années après, a ouvert des portes magnifiques à travers Carlos. Dieu m'a mis aux côtés de prêtres consécutifs là, de la paroisse et a permis vraiment des rencontres, a permis même une veillée de Pentecôte où on a fait des choses ensemble. Enfin voilà. Dieu fait grâce à l'humilité. Je préfère dire fait grâce à l'humilité qu'aux humbles. Je ne crois surtout pas humble. Je crois que personne ne peut se dire humble. L'humilité, c'est vraiment un fruit de l'esprit. Ce n'est pas du tout naturel. Et le jour où on croit qu'on est humble, on est rattrapé par l'orgueil tout de suite. Tout de suite, croyez-moi mon expérience. Donc, Dieu fait grâce à l'humilité, mais il résiste à l'orgueil. Et donc, voilà, je reviens dans le Jura, le samedi soir, ma célébration de louange. Donc, à ma petite promenade avant la célébration, où le Saint-Esprit me confirme, Jean-Luc, c'est bien ça. Je rentre juste un petit peu, j'avais encore de temps pour lire un peu. Et je poursuis ma lecture d'un livre que j'avais commencé à lire dans le train, que j'ai terminé dans le train, que j'avais lu dans le passé, qui est L'Ultime Assaut de Rick Joyner, je ne sais pas si certains connaissent. Et juste dans ce petit temps où j'ai lu une demi-heure avant de partir pour la célébration de louange, je tombe sur un chapitre sur l'humilité. Je dis, ok Seigneur, confirmation. Et c'est Rick Joyner dans une vision où il voit une armée de chrétiens combattre contre l'ennemi. Il voit que plusieurs attrapent des flèches dans le dos. Et le Seigneur, sagesse, hein, c'est sagesse, mais c'est le Seigneur qui parle avec Rick. Il lui dit, tu vois, ces gens prennent plein de flèches dans le dos parce qu'ils n'ont pas le manteau d'humilité, qui est un manteau protecteur. Dieu fait grâce à l'humilité, hein. Et voilà, je dis, ok Seigneur, confirmation, vraiment, c'est bien le témoignage que je dois donner. Le soir, célébration de louange magnifique avec beaucoup de jeunes, ça m'a encouragé, des jeunes catholiques, évangéliques. Oh bon, la moitié c'était des jeunes, bon, peut-être j'exagère, allez, un tiers sûr, ouais, un tiers. Où j'ai vu un lâcher de ballon dans la louange, c'est la première fois que je vois ça. Je dis, il faut que je vienne dans le Jura pour voir une célébration de louange où on lâche des ballons. Où sur les ballons, c'était écrit tous des noms qui représentaient Dieu. Et dans cette soirée, donc à un moment, je suis invité à donner ce témoignage, je partage ce témoignage, et je le rapproche d'un récit que j'ai entendu il n'y a pas longtemps aussi à Roubaix, alors que le président de la Fédération protestante de France était venu avec la vice-présidente. Ils avaient rendu témoignage d'un forum mondial à Nairobi, hein, loin d'ici, il y a un an, où dans ce forum, des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes, des tous ceux de baptiste, tout ce que vous voulez, étaient rassemblés, ce qui était miraculeux déjà. Et c'était à l'initiative de quelques-uns du Conseil œcuménique des Églises. Et donc, ils étaient gonflés quand même, parce que c'est pas évident. Et d'ailleurs, le président et la vice-présidente témoignaient qu'au début, c'était un peu... Mais chacun était appelé à témoigner de sa rencontre avec le Christ. Et c'était très étonnant. Des pentecôtistes étaient littéralement stupéfaits de constater l'authenticité de la rencontre de certains catholiques avec Jésus-Christ. Stupéfaits. Et au deuxième ou au troisième jour, un pentecôtiste a demandé pardon aux catholiques pour l'orgueil, la prétention, l'esprit de jugement. Et ça a changé l'atmosphère du forum. Des demandes de pardon se sont succédées ensuite. Et ça a changé, il est dit vraiment, ils ont rendu témoignage de ça, l'atmosphère de ce forum, avec une conviction à la fin pour tous qu'il fallait refaire cela. Dieu fait grâce à l'humilité, il ouvre des portes. Donc marche humblement, Dieu ouvre des portes. Dans cette soirée de louange, eh bien, il y a eu un temps de prière pour essayer de placer cette invitation à l'humilité devant le Seigneur. Moi, j'ai donné cette explication que nous devons confesser les uns aux autres nos failles et à nos frères, à l'intérieur de notre Église déjà, mais aussi à l'extérieur, nos failles en amour. Et confesser notre orgueil, nous devons le faire. Cela ouvre des portes. Et Florian Rocha est intervenu après pour dire qu'il avait été interpellé par un autre texte, d'ailleurs dont il nous avait exhorté au niveau du conseil dans la journée, un texte où, c'est dans Zacharie, où Dieu montre une image à Zacharie, l'image d'un chandelier avec des oliviers. Et donc, et Dieu dit, ou c'est l'ange peut-être, c'est l'ange qui dit à Zacharie, est-ce que tu comprends ce que tu vois ? D'ailleurs, Zacharie l'a même interpellé, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dieu dit, est-ce que tu comprends ? Et Zacharie dit, non, je ne comprends pas. Voyez, l'humilité, c'est de pouvoir dire entre nous, je ne sais pas, je ne comprends pas. Où on se croit obligé de devoir tout savoir. Et en tant que pasteur, la tentation est plus grande. Hein. Un pasteur devrait tout savoir. Ben non, il ne sait pas tout. Il ne comprend pas tout. Et je crois que marcher humblement, voyez, c'est confesser nos failles en amour, confesser notre orgueil, mais aussi savoir dire, eh ben écoute, là, je ne sais pas. Là, je ne comprends pas. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Alors dans cette soirée, il y avait cette exhortation de Florent, il était lui-même interpellé dans la journée avec ça, confirmation. Le lendemain matin, c'est pas fini, je déjeune avec plusieurs, et à l'issue du petit déjeuner, une dame toute humble reste, qui était chargée de débarrasser la table. Elle reste avec moi, les autres étaient partis. Puis elle commence à me raconter son témoignage, bouleversant. Pourquoi elle me l'a raconté ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'était un témoignage bouleversant. Cette femme humble racontait ses combats depuis la mort de son mari. Donc c'était une veuve. Toutes les difficultés qu'elle avait à gérer sa vie parce qu'elle a soigné pendant 30 ans son mari qui était alité pendant 30 ans. Alité, hein, ne pouvant bouger ses mains et ses jambes. Elle s'est mariée même jeune, son mari était déjà handicapé, suite à un accident de voiture. Et cette femme a expliqué, je me suis mariée avec lui pour me rendre utile, parce que j'avais pas du tout d'identité, j'ai perdu ma mère après ma naissance. Et cette femme m'expliquait ses combats, depuis le départ de son mari, elle était tellement occupée, tellement centrée sur lui que ce mari partit. Mais j'étais touché par ce témoignage bouleversant. Et je me dis, cette femme, certainement, aura une grande place dans l'éternité, dans le royaume, certainement. Elle était fidèle. Elle l'a fait par amour. Elle a trouvé le Seigneur au milieu de sa vie. Et elle a continué à servir un homme dont le médecin disait qu'il pouvait mourir à tout moment. Donc elle côtoyait la mort constamment aussi. Alors pourquoi le Seigneur m'a donné d'entendre ce témoignage? Mais toujours, je l'ai compris dans ce message. Regarde, je te présente un témoignage d'humilité qui est important. Une femme très discrète, qui ne fait pas de bruit dans l'église. Le lundi matin, quand je méditais ma parole après ce week-end vraiment fantastique que j'ai vécu dans le Jura, où j'ai vécu d'autres moments très très forts, le Seigneur me donnait une parole dans Ésaïe, je crois, au chapitre 29. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel. Tout ce que j'ai reçu était axé sur l'humilité, sur cette marche humble. Alors j'avais envie de vous donner ce témoignage. On t'a fait connaître. J'ai l'impression que le Seigneur nous amène à reconsidérer notre marche ce matin. Continue à marcher humblement avec moi. C'est le chemin, c'est le bon chemin. Pratique la justice et aime la miséricorde. Alors ça, ce passage nous ramène vraiment à Ésaïe 58. Et ce chapitre, pour moi, d'Ésaïe 58, c'est un joyau de l'Écriture. Parce qu'il décrit tellement bien l'attente de Dieu pour le style de vie que son peuple doit avoir. Parce qu'il contient des promesses magnifiques. Et on va se concentrer tout à l'heure sur les promesses, dans un moment. Dans ma Bible à parallèle, il y a un titre à ce chapitre, c'est « Le vrai jeûne ». Mais moi, j'en ai donné un autre. C'est « La récompense à l'amour vrai ». La récompense à l'amour vrai. Qui comprend cette marche humble, qui comprend cette justice qui nous vient de Dieu, hein, et cette miséricorde. Et combien je trouve souvent, et c'est pour ça que je vous le redonne, on va prendre ces promesses ce matin, parce qu'on y trouve des raisons d'espérer, de persévérer dans notre foi dans les moments difficiles, dans les moments où l'autre, là, l'ennemi, nous dit « Allez, à quoi bon que tu continues, à quoi bon que tu persévères, là ? Regarde, ça fait pas la différence. Pourquoi prendre tant de peine ?» J'aimerais vraiment ce matin qu'on saisisse ces promesses magnifiques, que l'on ait la vision glorieuse de ce que Dieu prépare pour nos vies, pour notre Église, pour notre région. Alors dans le chapitre d'Ésaïe, vous pouvez le prendre devant les yeux si vous voulez, vous l'avez, hein, vous pouvez le prendre, on va pas tellement commenter, sauf quand je vais arriver aux promesses. Hein. Mais là, simplement, je redis simplement que dans ce chapitre, on voit au début Dieu en colère. Dieu en colère, il nous met en garde contre une fausse spiritualité au début du chapitre. Hein. Le danger d'une distorsion entre la prière et notre vie, notre comportement. Il ne doit pas avoir de distorsion. Et notre attitude. Et là, Dieu reproche à son peuple qu'il y a une piété apparente, hein, une piété apparente. Il semble qu'il y a un service religieux régulier, mais par contre, il y a une effusion de querelles, de disputes, un esprit de colère qui se manifeste par des menaces, taper du poing, une dureté de cœur qui se traduit par un traitement sévère des mercenaires, une absence totale de compassion, du laisser-aller dans la conduite morale. Pas de maîtrise de soi, chacun se livre à ses mauvais penchants. Hein, la démarche extérieure, jeûner, se coucher sur le sac, la cendre, se courber, n'est absolument pas en accord avec l'attitude intérieure. Alors cela nous paraît énorme, mais attention, c'est pas tellement éloigné de nous. Je vous cite simplement une fois, dans un temps de jeûne et de prière, je me préparais justement pour le rassemblement Réveil l'amour. Réveille l'amour, hein, notez bien. Hein. Ouais. Et en pleine préparation, j'étais tellement tendu, que j'étais irrité et Annette a dû me reprendre. Elle me voyait tendu, je lui ai répondu, je l'ai envoyé à balader une fois. Vous savez, nos époux, nos conjoints sont souvent nos miroirs. Hein. Et je l'avais emballé et puis Annette, elle m'a regardé, elle m'a dit, dis donc, si c'est comme ça que tu prépares la conférence Réveille l'amour, c'est pas tellement... Et bon, j'ai demandé pardon, je me suis repris, je dis merci Seigneur pour la lumière, mais voyez le jour où on programme un jeûne et prière dans l'église. Veillons. Veillons à notre attitude. Dieu peut permettre des circonstances même difficiles, hein, comme pour nous tester un petit peu. Enfin, hein. Veillons. Et alors, donc, il y a au début un petit peu ce réquisitoire contre la fausse spiritualité, et ensuite la description de l'amour vrai. On y trouve vraiment le profond respect de l'autre, la compassion pour celui qui souffre, et également le souci de plaire à Dieu, d'être constamment conduit par le Saint-Esprit, qu'on rompe toute espèce de joug, hein, le profond respect, toute espèce de joug. Je vous donne une liste de tous les jougs qui peut exister, une liste comme ça que je demandais au Seigneur de me montrer. Hein. L'attitude dominatrice, l'autoritarisme, qui est éloigné de la véritable autorité. La manipulation, les menaces, le harcèlement, l'absence de pardon est une forme de joug. Hein. Le ressentiment, le jugement et la condamnation. Il nous faut toujours distinguer entre le pécheur et le péché. La parole de malédiction qu'on peut s'adresser à soi-même ou aux autres. Oui, il faut rompre tout ça. Quand on dit « tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais ». La dureté de cœur, l'irritation, la parole dite avec colère, l'indifférence, le mépris, l'absence de merci, de reconnaissance. Parfois, il y a des gens à qui on sait dire merci, qu'on voit rarement, puis des gens très proches, on n'arrive pas à leur dire merci. Le silence et le repli sous forme de bouderie. Et bien sûr, toutes les dépendances, hein, drogue, alcool, dont je suis esclave, qui entravent ma liberté, mais font souffrir ceux qui sont à côté de moi aussi. Alors voyez, je m'étends pas là. Hein, le profond respect de l'autre, la compassion pour celui qui souffre, le souci de plaire à Dieu, de ne faire que sa volonté. Tout ça, c'est l'amour vrai, c'est l'amour agapé dont on a parlé si souvent, c'est l'amour dont a aimé Jésus. Je voudrais ce matin dire, mes frères et sœurs, continuez. Continuez sur ce chemin, il y a une récompense. Voilà. C'est ça, si vous devez retenir qu'une phrase, c'est celle-là. Continuez, mes frères et sœurs, il y a une récompense. Il y a un fruit. Et je donne comme témoignage les témoignages des participants alpha en ce moment. Et hier, j'écoutais ce que disaient les uns les autres, et je les écoute. Ils sont bien quand même, il y en a 8 sur 10 qui restent depuis le début. Voilà, c'est encourageant. Ouais. 8 sur 10 qui participent, qui sont là. Et hier, quelqu'un me disait, une Christine, pas notre Christine, mais une autre, disait, oh là là, depuis ces cours alpha, je m'approche de l'évangile. Alors que je me rends compte que j'étais, moi qui me disais chrétienne, j'étais éloigné de l'évangile. Une autre, Valérie, disait, ouais, quand même, c'est un week-end sur le Saint-Esprit. On sent et on voit que l'Esprit Saint passe à travers vous. Quelqu'un d'autre, ah merci, on sent votre accueil chaleureux. Ouais. Voyez, je vous donne ces témoignages, pas pour que vous ayez la grosse tête, hein, mais pour que vous soyez encouragés. Il y a des signes, voilà, encouragés, encouragés. Il y a un fruit. Il y a un fruit qui arrive. Et j'en arrive maintenant. Aux promesses. Ces promesses de cet amour vrai, cette marche dans l'humilité, cette pratique de la justice du droit qui consiste à avoir un profond respect de l'autre et la miséricorde. Il y a une récompense. J'ai compté au moins 15 promesses dans Ésaïe 58. Je vais les citer. Et on va se les proclamer les uns aux autres après. Je crois que c'est important qu'en tant qu'Église, on se les proclame. Et là, c'est vraiment la dimension prophétique. Vous voyez, que maintenant, c'est un peu pastoral ce que je vous partage, mais maintenant, c'est prophétique. Ésaïe 58, c'est la réconciliation entre le pastoral et le prophétique. Ça va ensemble. Donc, je vous donne la version seconde, puis la version en français courant. Et peut-être un mot en rapport avec le sens profond du texte, et pour ça je me suis aidé de la Bible online, qui me reporte au mot hébreu, un petit peu, d'accord ? Une première promesse qu'on voit, magnifique, si nous marchons dans cet amour tel que je viens de le décrire en peu de mots. Et on retrouve ça dans les versets, je vous dis à peu près, 58, en gros dans les versets 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Non, oui, oui. Environ 1. Ouais, ouais. Verset 8, 9, pardon, pas 6, 7. 8, 9, la fin du verset 10, verset 11 et verset 12. Première promesse. Et on va les mettre tout à l'heure sur transparent. Et on va se les proclamer ensemble. D'accord ? Première promesse. Ta lumière poindra comme l'aurore. Français courant, ce sera l'aube d'un jour nouveau. Ça veut dire que ton visage va refléter la sérénité. Sens profond. Deuxième promesse. Ta guérison germera promptement. Français courant, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. C'est vraiment la promesse de vivre une restauration, un renouvellement de nos forces. Et il ne faut pas exclure la guérison physique. Troisième promesse, ta justice marchera devant toi. Français courant, le salut te précédera. Cela veut dire que tu auras la faveur de Dieu. Tes actes de justice, qui sont ces actes d'amour gratuit, d'amour agapé, hein, qui ne viennent pas de notre propre justice, mais qui sont inspirés par l'amour agapé, vont toucher le cœur de Dieu. Quatrième promesse, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Français courant, le Seigneur lui-même sera ton arrière-garde. Cela parle d'un rayonnement, tu seras lumineux, comme tu seras beau comme Moïse, comme Joseph, comme Étienne. Cinquième promesse, Dieu répondra à tes appels, tes cris. Dieu répondra à tes appels, tes cris. J'aime souvent répéter qu'une fois ou deux, au début d'un culte où j'étais sous l'oppression, une dépression, je ne sais pas d'où ça venait, j'étais vraiment pas bien, ici. Hein. Et le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Luc, décentre-toi de ça, mais va saluer, simplement taper sur l'épaule de quelqu'un qui vient d'arriver. Je l'ai fait, pouf, l'oppression disparue. Je garde ces petits exemples comme des choses qui peuvent nous aider. Sixième promesse, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, tes ténèbres seront comme le midi. Français courant, au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Qu'est-ce que c'est beau ces promesses. Cela veut dire que tu verras clair, tu auras du discernement. Ne pensons jamais grandir dans le discernement sans l'amour et la paix. Cela veut dire que tu retrouveras la sérénité et ton visage. Oui, tu retrouveras, pardon, oui, la sérénité. Ton visage reflètera la sérénité. Septième promesse. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu vas grandir dans cette assurance d'être bien conduit. Tu ne craindras pas les mauvaises nouvelles. Voyez où ça nous conduit, cet amour vrai. Huitième promesse. On l'a ici. Il rassasira ton âme dans les lieux les plus arides. Français courant, même en plein désert, il te rendra des forces. Quelle promesse ! Tu n'auras plus besoin de faire 1000 efforts pour évangéliser, les gens vont être attirés par toi, tant tu seras un sujet d'étonnement, par ta paix, ta sérénité, que tu sauras dégager même dans l'épreuve, dans l'adversité. Et on va vers ces temps arides. On va vers ces temps arides. Et nous serons des signes par notre sérénité. Vous le croyez ? Il faut le croire. Nous n'allons pas nous enliser si nous persévérons dans cet amour. Hein. Rappelez-vous, j'aime souvent dire ce verset, la foi est agissante par l'amour. Voilà. Neuvième promesse. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Cela veut dire que tu seras équipé pour résister à l'oppression de l'adversaire. Tu feras des percées dans le domaine spirituel. 10. Une de mes promesses préférées, je l'ai sur ma table de nuit. J'avais eu ce verset à un repas Gédéon, je le laisse sur ma table de nuit. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que c'est beau un jardin arrosé au printemps, regardez, quand le printemps va venir. Allez dans votre jardin, regardez le rayon de soleil qui vient sur les fleurs, le parfum que ça dégage, les belles couleurs, les petites mésanges et le rouge-gorge qui picore là. Waouh, que c'est beau, ça donne, il y a un aspect brillant dans le jardin Eh bien, votre vie est appelée à être comme ce jardin-là, un jardin arrosé. Onzième promesse, les tiens rebâtiront. Pouh, ça c'est une promesse pour nos enfants. Oula. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Français courant. Oui. Français courant, oui. Tu relèveras les anciennes ruines. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Cela me parle du travail et du témoignage de nos pères et mères qui nous ont précédés dans la foi aussi. Notre nation, notre région ne manque pas de témoins. Nous allons poursuivre leur travail. Nous allons poursuivre leur travail. Douzième promesse. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Waouh ! Français courant, le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Cette parole est en rapport avec les réparations des murs, voire même des murailles. Cela veut dire que ton action va contribuer à élever des murs de protection contre l'envahisseur qui est l'ennemi de nos âmes, celui qui veut amener la corruption. Ton action va contribuer à changer l'atmosphère, à édifier des personnes stables, des familles stables, des structures stables. Vous vous rendez compte? C'est ces petits actes d'amour, là, ils vont nous conduire à ça. 13e promesse, on arrive presque au bout. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Français courant, je deviendrai la source de ta joie dont on a parlé dans ce culte. Tu seras de plus en plus amoureux du Seigneur, passionné. 14e promesse, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets. Cela parle de la sécurité, peut-être fait allusion au fait aussi que Dieu va nous élever, nous honorer. 15e promesse, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Français courant, je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Cela veut dire tu hériteras des plus grandes, des plus précieuses promesses dont parle la Bible. Tu grandiras en autorité, tu jouiras de la paix, tu seras source de bénédiction pour beaucoup, canal de bénédiction. Vous vous rendez compte? Moi j'y crois. Moi, je crois qu'elles sont pour nous, ces promesses. Je le crois. Et je veux voir ces petits frémissements, là, ces paroles d'encouragement de ces équipiers alpha, puis d'autres aussi, comme des petits signes, pour ne pas céder, ne plus céder au découragement, à la tristesse, et de ne pas perdre cette certitude du fruit qui vient, qui va venir. Amen.
Amen.
On va faire une chose maintenant. On va se proclamer ces promesses. Pour nous, pour notre Église. Alors, donc il y a deux transparents qui sont là. Alors on va se mettre sur le côté. Et nous allons former un tunnel, ceux qui peuvent.